sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on commence l'émission avec Yuna Kiff pour le film Les Invisibles. On continue avec une personne qui va venir nous parler de l'utilisation de la technologie pour la sécurité des aînés, Julie Castonguet du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Et on va terminer l'émission avec la traditionnelle revue de presse. Bonne émission tout le monde! On commence l'émission avec Yuna Kiff, qui est la réalisatrice du film Les Invisibles. Bonjour, Madame Kiff.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va, merci. Donc, parlez-nous de votre film, Les Invisibles.
Oui, Invisible. Donc, Invisible, ça parle de travail du sexe et de personnes en situation de handicap. Donc, ça, de manière sexe-positive et non victimisante, on suit le parcours de Elisabeth, qui est une travailleuse du sexe, qui décide de quitter le travail du sexe, mais juste avant de quitter, elle décide d'avoir un dernier client, et ce client, il est en situation de handicap. Et après l'avoir vu, elle réalise qu'il y a des aspects de son travail qu'elle n'a pas encore explorés. Donc, elle se replonge là-dedans, et on la suit dans son parcours.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ça, d'explorer ce sujet-là, qui est quand même peu exploré dans le milieu du film?
Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, ces sujets-là sont souvent marginalisés, ces deux communautés qui sont marginalisées, et souvent on les montre pas de cette manière-là dans la société. Souvent les travailleuses du sexe, on va montrer vraiment tous les côtés négatifs, on va parler de l'exploitation, et on va pas parler du travail des personnes qui choisissent de faire ce travail-là. Même chose pour les personnes en situation de handicap, souvent on les montre de manière très unilatérale, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes vulnérables, puis souvent des personnes qui sont tous ceux qui ont des bonnes valeurs, etc. Donc, moi, j'essaie un petit peu, entre guillemets, de normaliser tant le travail du sexe que les personnes en situation de handicap qui sont comme n'importe qui d'autre, qui sont des humains à part entière. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que j'essaie de montrer dans le film.
Et d'où vous est venue cette idée-là? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens qui étaient en situation de handicap ou des gens qui étaient dans le travail du sexe qui vous ont inspiré ce travail-là?
Non, en fait, il y a 10 ans environ, j'allaitais mon premier enfant et je suis tombée sur un article qui racontait comment une travailleuse du sexe a commencé à avoir une clientèle de personnes en situation de handicap et que finalement, elle est tombée en amour avec un client, ils se sont mariés, etc. Mais c'est vraiment, c'est pas l'histoire d'amour qui m'a intéressée parce que je trouvais ça peut-être un peu cliché, mais c'est le fait qu'on n'entend pas raconter des travailleuses du sexe qui rencontrent des clients en situation de handicap et aussi simplement à la sexualité des personnes en situation de handicap, on s'en intéresse pas du tout. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis formée comme assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap en France. Puis par la suite, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'entrevues et c'est vraiment en rencontrant des femmes fortes, des femmes qui ont décidé de faire ce job-là et des personnes en situation de handicap qui sont vraiment comme n'importe qui d'autre que ça m'a donné vraiment envie de parler de ces deux communautés-là. De ce point de vue-là.
Ça fait combien d'années que vous êtes sur ce travail-là, le travail du film qui vient de sortir?
Ouais, ça fait vraiment, de manière intensive, je vous dirais un 7 ans, peut-être même un petit peu plus. Ben, 5 ans, ça a juste été la recherche avant de commencer à écrire le scénario. Donc ensuite, la production et tout ça. Ouais.
C'est quand même exhaustif, là. C'est quand même beaucoup plus que ce qui a été fait dans la plupart des projets, là.
Ben, j'avais une approche très documentaire pour ce film-là. Je voulais vraiment pas remontrer des clichés, remontrer des stéréotypes, puis je voulais vraiment déstigmatiser certaines notions que même moi, j'avais à prime abord, parce que je connaissais pas ça.
Mais vous dites, j'avais une approche documentaire, et pourtant, justement, le film n'a rien de documentaire dans l'optique où c'est vraiment un film en bonne et due forme, loin du documentaire, malgré le fait que vous dites que vous avez fait attention aux stéréotypes, là, pour pas tomber dans le stéréotype, mais quand même, le film, en tant que tel, est loin de, des documentaires. On voit souvent, on a vu quelquefois des documentaires sur la question, mais votre film est nouveau dans ce qu'il propose.
Oui, ben c'est vraiment une fiction. C'est vraiment à 100% une fiction. Tout a été vraiment créé, planifié. Par contre, j'ai quand même donné un look, une approche assez documentaire dans le sens qu'on a l'impression de suivre les personnages de très proche. On a l'impression vraiment d'y être. C'est pas hyper stylisé et léché comme image. Je voulais vraiment qu'on se sente, on se sente vraiment parmi l'histoire, parmi les actions. Mais vous avez raison, c'est tout à fait une approche complètement de fiction.
Ça a été quand même réfléchi. On sent la réflexion par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous faites affaire avec dans le film avec des acteurs qui sont en situation de handicap. J'imagine que absolument. C'était aussi une préoccupation pour vous.
Ben oui, absolument, parce que souvent, quand on parle des personnes concernées, finalement, on les inclut pas,
oui,
les personnes
tout à fait.
Concernées.
Tout à fait.
Donc, pour moi, ça a été la première chose, même avant même la sortie du film, que si on parle de personnes en situation de handicap, ben, ce soit des personnes en situation de handicap qui jouent dans le film. Donc, à part un comédien, les 30 autres personnes qu'on voit dans les premiers rôles, second et figuration, c'est toutes jouées par des vraies personnes en situation de handicap. Donc, on s'est vraiment adapté à leur handicap parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de scènes de sexualité, de nudité, de tout ça. Donc ça, c'était important de le montrer de manière crédible, mais donc de le montrer et de s'adapter autour de vrais handicaps de ces personnes-là.
Donc j'imagine qu'il y a eu quand même un travail avec des professionnels pour aider la mise en place de tout ça. Donc, au niveau du plateau, là, j'imagine que ça a été quand même un travail ardu, un long travail pour être sûr que tout le monde soit à l'aise puis que le plateau soit adapté aux différents handicaps. Et j'en parle aussi.
Exactement. Mais non seulement le plateau devait être adapté aux personnes en situation de handicap, on était nous-mêmes confrontés à tous les jours de voir vivre une réalité que les personnes vivent. Parce que s'il y a des escaliers, ben on peut pas filmer là. S'il y a un endroit qui est pas accessible, on peut pas aller filmer là. Donc, c'est sûr que notre tournage était à 100% adapté à la réalité des personnes en situation de handicap qui participaient dans le film. Fait que ça, c'était vraiment la base. Mais ensuite, pour les scènes de, par exemple, par rapport à la sexualité, les scènes d'intimité, mais c'est sûr qu'on était accompagnés. En fait, on a eu un coordonnateur d'intimité, on a eu une conseillère à l'intimité, puis on a aussi eu une travailleuse du sexe qui a approuvé certaines actions, qui regardait la crédibilité des choses, même si c'est pas invisible, c'est pas l'histoire de toutes les travailleuses du sexe.
Non, bien sûr.
C'est l'histoire d'une travailleuse du sexe, mais quand même, on a été accompagnés pour les scènes d'intimité par une travailleuse du sexe. Et en fait, tout le film là, a été révisé par trois travailleuses du sexe de très, très, très près, justement pour la crédibilité, pour la bonne représentation, etc.
C'est quand même un travail que vous n'étiez pas obligé de faire, mais que je sens qu'il a été important pour vous. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de ne pas retomber dans des stéréotypes ou dans des préjugés?
Ben moi, c'était primordial parce que, je veux dire, tomber dans des préjugés, j'ai l'impression qu'on y est souvent.
Oui.
Les médias montrent les mêmes choses. Les médias, je sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'ils veulent pas s'intéresser aux personnes. C'est comme on dit, parler de quelqu'un, mais sans l'inclure, ça fait pas de sens. C'est sûr qu'on va pas dire les bonnes choses. T'sais. Donc, pour moi, c'était important d'avoir tout ce travail de recherche, mais aussi d'intégrer ces communautés-là directement en pré-production, en écriture de scénario et en plein tournage aussi. Là, c'était, je veux dire, ça aurait pas pu fonctionner différemment, le film Invisible, si c'était pas de ça.
Mais vous le dites vous-même, c'est quelque chose d'intéressant. T'sais, j'avais moi-même des préjugés. J'avais moi-même des idées préconçues et ça montre à quel point même les meilleures personnes, des personnes super bien intentionnées ont des préjugés, ont des idées préconçues. Donc, ces idées-là, elles sont normales, mais qu'il faut y travailler puis il faut s'y intéressé pour essayer de déconstruire.
Tout à fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est qu'en fait, on manque d'informations.
Oui.
Et des fois, on ne sait pas où aller chercher l'information. Donc, moi, en fait, les premières scènes que j'écrivais il y a 7 ans ou les premières idées que j'avais ne sont pas du tout dans le film aujourd'hui parce que j'ai réalisé plein de choses et j'ai compris plein de choses puis on m'a fait réaliser plein de choses, les personnes de ces communautés-là. Donc, tu sais, j'avais une vision un petit peu plus naïve de ce que j'ai aujourd'hui. Puis je pense que ça a pris ce temps-là. Que ça a pris justement pour arriver au film qu'on a aujourd'hui.
Mais cette conversation-là est quand même importante de l'avoir puis de l'avoir ouvertement. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore un tabou d'avoir une conversation franche sur les préjugés puis sur les idées préconçues puis sur la sexualité des personnes en situation de handicap?
Ah ben oui, en fait, c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais en parler de cette manière-là, parce que c'est tellement tabou. Déjà, parler de sexualité, c'est pas évident et facile pour tout le monde dans la société.
Oui.
Mais en plus, à ce qui a trait aux personnes en situation de handicap, c'est ridicule. Des fois, on les prend pour des personnes asexuées. On les prend pour des personnes... C'est comme s'il y a toujours un problème autour de la sexualité, tandis que la sexualité, ça fait partie de notre vie, peu importe notre corps ou notre cerveau. Oui. Ça fait partie de ça. Donc, le fait d'en parler, déjà, ça déstigmatise un peu la question. Mais ensuite, pas juste en parler, mais y aller à fond, y aller vraiment avec tendresse, comme avec de manière très crue et frontale. C'est un peu la position que j'ai prise aussi avec le film, d'y aller de manière crue et frontale. Ça permet d'enlever ces tabous-là. Parce que quand les gens ils regardent le film, il y en a qui vont se sentir mal à l'aise, oui. Je le sais. Mais c'est justement quand on se sent mal à l'aise que peut-être après ça, on se sent plus mal à l'aise parce qu'on l'a vu, on l'a expérimenté. Donc, voilà.
On repousse des limites, en fait.
Oui, exactement.
Et là, j'ai envie de vous parler, et j'imagine que je ne suis pas la première, mais j'ai envie de vous parler du documentaire Touché, hein, qui est sorti il y a quelques semaines. J'imagine que ce n'était pas prévu, étant donné que votre travail, votre travail est de longue haleine, mais quand même, là, on a eu un début de conversation avec ce documentaire-là. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est vraiment les commentaires, entre autres, dans les journaux, où on parlait qu'on faisait, en fait, on positivait un système d'exploitation, finalement, puis qu'on banalisait un système d'exploitation, à la fois d'exploitation des femmes qui sont travailleuses du sexe, mais également d'exploitation des personnes en situation de handicap, que finalement, on banalisait quelque chose qu'on ne devait pas banaliser, puis que c'était... c'était une mauvaise façon d'aborder les besoins des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous répondez à ces médias-là qui pensent vraiment
que ça banalise? Ces médias-là qui vont par exemple dire que on banalise le travail du sexe parce que ça c'est de l'exploitation, etc. C'est que ces personnes-là qui parlent d'exploitation ne parlent pas du travail du sexe. On est d'accord qu'une personne qui a choisi de faire ce travail-là par elle-même, qu'elle n'a pas un proxénète qui l'oblige à le faire, puis elle ne doit pas remettre son argent à quelqu'un d'autre parce qu'elle a des comptes à rendre, ben, il n'y a aucun problème à faire le travail du sexe. C'est un travail. Ensuite, si la personne est obligée, si elle est forcée, si elle ne veut pas le pratiquer puis qu'elle le pratique, là, on ne parle pas de travail du sexe.
Je comprends.
Là, on parle de l'exploitation. Et souvent, malheureusement encore à notre époque, les gens mélangent le travail du sexe et
l'exploitation sexuelle.
Ce n'est pas le travail du sexe, c'est de l'exploitation.
Oui.
Donc non, je ne suis pas d'accord de mélanger ces deux choses-là. Avoir le travail du sexe avec les personnes en situation de handicap ou le travail du sexe avec les personnes non en situation de handicap, ça revient à du travail du sexe.
Oui, je comprends.
Donc, il n'y a rien qui est banalisé là-dedans. En fait, c'est plutôt ces personnes-là qui essaient de mêler ces deux choses-là, créer encore une fois des stigmates, puis créer encore une fois des clichés qui sont faussement répercutés. C'est souvent des personnes qui ne sont pas en lien avec de vraies travailleuses du sexe qui vont vraiment répondre que, j'imagine ce que je dis un peu, est-ce qu'on peut laisser tranquille ces personnes-là puis qui décident pour elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent faire puis comment le faire?
Et est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui font affaire avec ces personnes-là, donc qui demandent des services sexuels, sont-elles des victimes du système?
Ben, des victimes, vous voulez dire des victimes du système du travail du sexe ou de quel système?
Ben, des victimes, oui, du système de travail du sexe, des victimes de la société. En fait, ce qu'on disait, c'était que ces gens-là, c'était pas vraiment du sexe dont ils avaient besoin, mais qu'ils avaient besoin de plus de services, qu'ils avaient besoin de plus d'attention. Donc, ils étaient, c'est ça, qu'ils étaient des victimes d'un Québec qui ne leur donnait pas assez de services.
Ouais. Ouais, ben je trouve ça que c'est un petit peu difficile de dire que les personnes en situation de handicap devraient avoir plus nécessairement d'aide du gouvernement par rapport à la sexualité, parce que ça veut dire qu'on les met encore une fois dans une case à part de tout le monde.
Oui.
En disant que les personnes en situation de handicap ont besoin de ces services-là et que d'autres personnes n'ont pas besoin, ça vient encore une fois diviser et de créer une hiérarchisation chez les travailleuses du sexe. Et on dirait, OK, donc ce travail du sexe avec une personne en situation de handicap, c'est correct, mais avec cette autre personne qui n'est peut-être pas assez handicapée, selon le gouvernement,
oh ben voilà.
Là, ce serait pas correct. Fait que là, on créerait en plus des contraintes encore plus compliquées. C'est qui est considéré qu'il y a un handicap ou pas? Pour moi, je pense que c'est faux de dire que c'est des victimes. En fait, qu'on victimise ces personnes-là. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait avoir le droit d'avoir une relation avec une travailleuse du sexe qui a fait ce travail par choix, par décision. Donc, tant une personne en situation de handicap que pas. Si on commence à faire une différence, ben on met encore une fois les personnes en situation de handicap dans une catégorie différente à part du reste de la société. Donc, pour moi, je préconise, comme la majorité des travailleuses du sexe, je parle bien de travailleuses du sexe, pas d'exploitation, la décriminalisation totale du travail du sexe et de permettre à ces femmes-là, majoritairement des femmes, mais il y a des hommes aussi, de faire leurs propres règles, de travailler de manière ouvertement et d'avoir de la sécurité dans leur travail. Et même chose, le client ne serait donc pas criminalisé, parce qu'en ce moment, que quelqu'un ait un handicap ou pas, il est criminalisé s'il prend des services de travailleurs du sexe.
Et en terminant, est-ce que vous pensez que les personnes en situation de handicap doivent nécessairement faire appel à ce type de service-là? Est-ce que c'est pas également de les victimiser que de montrer ça comme étant leur seule option, finalement?
Mais non, pas du tout. Puis comme vous l'avez vu dans le film, on rencontre très bien une personne en situation de handicap qui a une famille, qui a une relation. Ça fait... En fait, dire que c'est la seule manière d'avoir des relations avec une personne de manière intime, c'est complètement faux.
Oui.
C'est juste que c'est une option. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière. Mais non, les personnes en situation de handicap, de celles que j'ai rencontrées, en tout cas, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui ont tout type de relations, comme l'est notre société.
Oui.
Et comme... donc, pas du tout. Et c'est pas du tout une nécessité de faire appel à ces personnes-là. C'est juste un choix que ces personnes-là peuvent prendre, mais c'est juste dommage que quand elles prennent ce choix-là, ben elles sont considérées comme des criminels.
Oui, puis on les stigmatise par rapport à ça.
Exactement, puis qu'on dise ben c'est la seule manière aussi d'avoir une sexualité, c'est faux. Et ces personnes-là le vivent de manière différente, puis elles ont tout le droit de le vivre de manière comme elles le veulent.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on invite les gens à voir votre film qui quand même défait des tabous et défait des idées préconçues là, sur l'handicap et le travail du sexe.
Merci beaucoup, merci.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
maintenant pour la revue de presse. Commençons en France où il y a une augmentation de 18 % des décès à cause des chutes en 5 ans. Donc, c'est quand même une augmentation qui est préoccupante. Les chutes constituent la première cause de décès accidentels chez les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est une étude publiée par Santé publique France en mars 2026 qui montre une aggravation de la situation dans ces dernières années. Les hospitalisations liées aux chutes ont augmenté de 20 % tandis que les décès ont augmenté de 18 % ça illustre l'ampleur d'un enjeu qui est majeur pour la santé publique et qui est évidemment au vieillissement de la population. Donc, on parle d'hospitalisation chez les 65 ans et plus de 1198 pour 100 000 habitants, des décès liés aux chutes de 138 pour 100 000 habitants, toujours chez les 65 ans et plus. Une hospitalisation de 8,6 fois plus élevée après 84 ans et une mortalité de 29 fois plus élevée chez plus de 84 ans. Évidemment, c'est quelque chose qui est préoccupant là, pour les autorités publiques. Les femmes ont un taux de mortalité suite aux chutes qui est plus élevé. Et effectivement, aussi, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, entre autres des régions en banlieue, peut-être où les personnes sont plus isolées par rapport aux services qui sont donnés. Un taux de décès qui augmente de 18 %, c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a un plan anti-chute donc, qui a été mis en place à la suite là, donc, de la publication de tout ça. Une étude sur la surveillance épidémiologique des chutes chez les personnes de 65 ans et plus. On veut connaître la dynamique des décès et des hospitalisations en lien avec une chute enregistrée entre 2015 et 2024 dans l'optique de mieux comprendre ce qui cause l'augmentation des chutes que l'on a vues. Finalement, on parle aussi donc de qualité et de l'expérience de vie qui, évidemment, sont touchées par ces chutes-là parce que... oui, il y a plus de mortalité, mais le fait d'avoir plus de chutes. Il y a aussi des personnes là, qui ne décèdent pas, mais qui sont blessées et qui donc perdent énormément de qualité de vie suite à une blessure importante parce que par la suite, ils ont besoin de plus de services, ils perdent en autonomie. Donc, évidemment, ça, ben, ça coûte aussi de l'argent au gouvernement. Donc, on parle du fait qu'on pourrait, donc, sur le plan collectif, un an d'espérance de vie de plus sans incapacité chez les personnes de 65 ans et plus correspondrait à une économie de 1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie. Donc, à chaque année où une personne vit, mais en ayant des besoins particuliers, ça coûte plusieurs milliers de dollars à l'échelle de 1,5 milliard d'euros là, pour l'ensemble de la population. On parle donc de tranches d'âge qui sont plus souvent hospitalisées également. Ça aussi, ça coûte évidemment, ça coûte cher, particulièrement donc plus 27 % là, chez les 65 à 74 ans, plus 20 % chez les 75 à 84 et plus 18 % chez les plus de 84 ans. Les hommes décèdent plus... que les femmes. Le taux de décès chez les hommes est plus élevé à cause des chutes, dis-je. Mais effectivement, ça reste un problème important pour la France au niveau du maintien des personnes âgées en situation de handicap et de vieillissement, je devrais dire. Et ça reste un problème de santé publique étant donné les coûts qui sont reliés à ces chutes-là. Et donc, on termine avec la France et on revient au Québec par la suite là, pour la suite de la revue de presse dans quelques instants.
Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin.
Julie Castonguet du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Bonjour, Madame Castonguet.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben, très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Madame Castonguet, j'ai fait appel à vous pour parler de l'utilisation de la technologie pour la sécurité des aînés dans leur domicile. Parce que c'est un enjeu, hein, la sécurité des aînés à l'intérieur de leur domicile. Et surtout, j'ai l'impression, depuis quelques années, le gouvernement a effectué un virage où le maintien à domicile devient quelque chose de très important pour le gouvernement. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, la technologie devient notre allié pour assurer la sécurité des personnes en situation de vieillissement, en fait.
Oui, bien en fait, je peux peut-être donner l'exemple d'un des projets que j'ai réalisé. En fait, c'est un projet qui visait à favoriser l'accès aux services essentiels chez les personnes aînées. Puis, vous comprendrez, la recherche avait été réalisée pendant la COVID, donc l'accès aux services essentiels était plus difficile. Oui. Les personnes étaient confinées là, à domicile, donc avoir accès à de l'épicerie, avoir accès à la médication était beaucoup plus difficile. Donc, on s'était dit, on va faire un projet pour favoriser cet accès-là en aidant les personnes à utiliser, par exemple, le service d'épicerie en ligne ou pour pouvoir renouveler sa médication en ligne puis la faire livrer chez soi, là, par exemple. Puis, ce qui était intéressant de voir, c'est que les gens, quand ils découvraient ces services-là, se disaient « Ah, ben tu sais, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser », mais certaines personnes se disaient « Ben je suis pas encore rendue là, tu sais, à l'utiliser. Ça pourrait peut-être être utile quand j'ai une perte de mobilité, par exemple, ou dans des situations où je pourrais pas y aller moi-même, parce qu'il y avait encore ce désir-là d'aller soi-même à l'épicerie, oui. D'aller soi-même à la pharmacie, puis d'avoir le contact aussi avec les autres personnes, de choisir ses propres aliments, par exemple. Mais dans le fond, ce que je veux apporter comme point, c'est que des fois, il y a toutes sortes de services qui existent en ligne, puis que ça pourrait être vraiment des services à apprendre pour peut-être plus tard, si on n'est pas prêt à les utiliser maintenant.
Et il y a quand même, vous apportez quelque chose d'intéressant, c'est que pour certaines personnes, ben, c'est leur sortie, c'est leur façon de socialiser dans leur journée que d'aller vers des services en personne.
Mais oui, tout à fait. Puis je suis une des premières personnes à militer contre le tout en ligne parce que des fois, on a besoin de parler oui. Juste quand on rencontre une situation puis qu'on veut parler à une vraie personne, là, pas juste une voix robotisée, mais également le fait de pouvoir effectivement aller à l'épicerie, d'aller voir la personne pharmacienne. Puis là, des fois, dans ces échanges-là, des fois, c'est la seule personne à qui on va parler dans notre semaine, là, dans certains cas. Donc, de garder ce contact-là est quand même très important. Puis on veut pas que le numérique, finalement, devienne un outil d'isolement social.
Puis aussi, j'imagine, une question de santé physique, c'est-à-dire le fait de se mobiliser, de se déplacer, ça aide à conserver, là, j'imagine, les acquis pour les personnes en situation de vieillissement là, qui bougent peut-être un peu moins. Hein.
Oui, mais tu sais, j'ai pas une formation en santé, mais mon premier réflexe serait de dire que oui, en fait, plus on peut demeurer actif, faire des activités, plus ça va être facilitant, puis ça va nous permettre de garder notre autonomie. Puis tu sais, c'est quand on commence à moins faire de choses que ça nous tente moins, hein, aussi.
Donc, oui, c'est une roue qui tourne.
Exactement, mais il y a quand même certaines périodes où si on peut se faire livrer, on avait une grosse tempête de neige hier.
Oui, tout à fait.
Si il nous manque de choses dans le frigo, des choses comme ça, au moins de pouvoir se faire livrer son épicerie quand l'accès est plus difficile. Puis il peut y avoir à certains moments, soit l'hiver ou à d'autres moments dans l'année où notre accès personnel est plus difficile. Donc, c'est des services qui permettent de pallier là, dans des situations comme ça.
Et si c'est plus difficile là, pour les gens qui sont pas en situation de handicap, qui sont pas vieillissants, là, j'imagine que c'est extrêmement difficile aussi pour les personnes qui sont vieillissantes, là, étant donné que aussi il y a des problèmes d'accessibilité là, au niveau du déneigement et tout ça, là, c'est pas parfait, là.
Bien, c'est ça, tout à fait. T'sais, on peut penser, tu sais, l'hiver, avec, tu sais, juste si on a à se promener à pied, puis les trottoirs sont glacés, oui. Par exemple, ça peut être un autre frein. Mais également, il y a peut-être d'autres situations où l'accès au transport en commun ou de pouvoir conduire dans différentes conditions peut être plus difficile. Donc, à ce moment-là, puis, tu sais, souvent, il y a certaines distances à parcourir aussi. Oui. Donc, si on pense à un milieu rural, par exemple, puis s'il y a un service d'épicerie qui pouvait livrer chez moi, qui m'éviterait de faire tout ce parcours-là, ça peut être facilitant. T'sais, par contre, comme je disais, ne mettons pas tout en ligne. Puis quand on développe des outils en ligne, des services en ligne, il faut avoir la préoccupation aussi là, de dans le fond,
de répondre aux besoins, oui, c'est ça.
C'est ça, puis de penser aux personnes utilisatrices à l'autre bout, là, parce que des fois, on peut penser avoir développé le meilleur service au monde, mais il peut y avoir différents accès à l'utilisation de ce service-là parce qu'un bouton est mal placé, parce qu'on ne voit pas bien tel champ texte ou des choses comme ça. Là.
Donc, effectivement, c'est important de demander l'avis des personnes utilisatrices et j'ai envie de dire de personnes utilisatrices de plusieurs groupes, hein, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des jeunes, des plus vieux, pour qu'on ait une vision d'ensemble, en fait, des besoins puis de ce qui peut marcher ou ne pas marcher dans le cas des services en ligne. Est-ce que vous pensez également que les personnes âgées sont pas assez mises au courant des possibilités de ce qui est possible de faire en ligne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans votre projet?
Mais je dirais que des fois, on a tendance à penser que vu que les personnes sont âgées, ils ont moins connaissance du numérique ou ils ont une moins grande utilisation du numérique, alors qu'il y a quand même une bonne partie de la population là, qui est en ligne. C'est sûr que chez les personnes plus âgées, il y a moins de personnes que chez les personnes plus jeunes, mais reste que les gens sont beaucoup quand même sur le numérique. Je dirais, des fois, c'est ça va en fonction de nos propres besoins qu'on va répondre à nos besoins de certaines façons. Donc, par exemple, si moi, j'ai une préférence pour aller faire mon épicerie moi-même à mon supermarché qui est pas loin de chez moi, mais j'ai pas le réflexe de penser, ah oui, je préfère livrer mon épicerie. Donc, des fois, ça va aller un peu avec le parcours et les besoins des gens. Quand je rencontre les personnes, ils ont différentes préoccupations. Ça va être, par exemple, les services bancaires, les services financiers, des choses comme ça, les services gouvernementaux. Donc, ça va vraiment beaucoup en fonction des besoins, je dirais. Puis c'est là qu'on découvre qu'il y a ces services-là qui existent, qui peuvent, dans certains cas, nous faciliter la vie.
Outre les services en ligne dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui pourraient aider les personnes en situation de handicap, en situation de vieillissement le plus particulièrement?
Oui, mais je suis pas une experte du côté de la domotique et des choses comme ça, mais il peut y avoir, si on prend par exemple les petits robots balayeuses intelligents, il y a différentes choses au domicile par la domotique qui peuvent nous faciliter la vie. Par contre, il faut être prêt aussi là, à utiliser ces outils-là. Puis des fois, il faut apprivoiser là, tous les outils qui sont mis à notre disposition parce qu'on peut avoir des idées préconçues par rapport à ces outils-là. Donc, des fois, c'est d'apprendre les solutions qui existent puis voir comment ça pourrait profiter à notre maintien, notre soutien à domicile.
Parlant du soutien à domicile, étant donné là, les coupures qu'on a vues dans les dernières semaines, dans les derniers mois, est-ce que vous pensez que le soutien à domicile, en ce moment, est un enjeu, est en danger pour les personnes qui sont en situation de vieillissement?
Mais je pourrais pas me prononcer là, par rapport à l'aspect budgétaire des services de soutien à domicile, mais c'est sûr que ça date pas d'hier qu'il y a vraiment on se préoccupe vraiment du soutien à domicile, puis je pense que c'est une bonne chose de soutenir le soutien à domicile puis les différents services là, qui peuvent favoriser le soutien à domicile, puis de continuer dans cette voie-là. Là.
Est-ce qu'il y a assez de recherches et assez de services qui sont offerts ou est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là selon ce que vous avez vu dans vos projets?
Ben, tu sais, ça, je pourrais pas, je me garderais une petite gêne. Je me prononcerais pas sur les manques au niveau là, du soutien à domicile.
Non, je parlais plus largement. Est-ce que vous pensez que il y a suffisamment de services pour les personnes en situation de vieillissement au niveau des services en ligne qu'on peut offrir ou au niveau de ce qui est offert là, pour les aider, ou c'est quelque chose qu'on doit encore développer?
Bien, en fait, tu sais, dans le fond, c'est de bien adapter les services qui sont offerts à l'ensemble de la population, mais de s'assurer que les personnes aînées n'aient pas de problème d'utilisation de ces services-là. Donc, entre autres, dans le cadre de mes projets de recherche, on réalise présentement un projet qu'on appelle le bac à sable, qui permet de reproduire des services en ligne dans un environnement qui est sécurisé, comme comme un simulateur de vol, en oui. fait. Donc, on va permettre de vraiment se familiariser avec ces services-là dans un environnement qui est vraiment sécurisé, puis qui n'aura pas d'impact sur la vraie vie de la personne ou sur l'entreprise ou l'organisation qui possède le service. Donc, ça peut être une façon, justement, de permettre aux personnes de se familiariser dans les différentes étapes d'utilisation du service en ligne, mais également de voir qu'est-ce qui peut être problématique dans un service en ligne qui existant, puis pouvoir faire des recommandations aussi là, aux entreprises ou aux organisations qui sont propriétaires de ces services-là.
Est-ce que vous voyez beaucoup d'enjeux au niveau de l'accessibilité pour les personnes qui sont vieillissantes? Est-ce que c'est une tranche de la population qui semble être oubliée au niveau de ce qu'on propose pour des services sur Internet?
Mais tu sais, je dirais que les services que les personnes vont utiliser, c'est pour répondre à leurs besoins, les services qui sont offerts à l'ensemble de la population, comme je le mentionnais. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant en faisant tester les services par des personnes aînées, des fois, il y a certaines choses pour nous qui étaient des évidences. C'est par exemple, tel icône pour nous, ben on comprend que c'est pour télécharger, par exemple. Par contre, tu sais, des personnes qui ne sont pas familières, là, je veux pas généraliser à l'ensemble des personnes aînées, là, mais disons, une personne, peu importe son âge, qui n'est pas familière avec les différentes icônes, avec les différentes façons d'utiliser un site web, par exemple, pour un service en ligne, ben, on se pose beaucoup de questions, puis des fois, en écoutant les gens, ben, on se dit, oh, ben, non, finalement, c'était pas une évidence, puis tu sais, il y aurait peut-être lieu à améliorer la façon de présenter les choses ou à mettre plus d'informations pour que les gens puissent s'y retrouver, finalement.
En terminant, il y a deux autres projets qui ont attiré mon attention là, sur votre site web là, du Centre collégial d'expertise en gérontologie. On parlait de façonner la bienveillance en RPA et aussi d'un projet là, pour les prochains dents. Je sais que c'est des projets là, qui sont en cours donc dont vous n'avez pas les résultats encore, mais pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'enligne pour ces deux projets-là?
Mais c'est des projets qui sont menés par mes collègues. Donc, tu sais, je suis pas dans le fin détail là, de ces différents projets-là. Pour le projet de bientraitance, ben c'est vraiment pour, dans le fond, de favoriser la bientraitance là, dans les différentes RPA du Québec. Puis, ma collègue là, développe de super de beaux outils aussi pour soutenir la prochaine danse. Puis, entre autres, là, maintenir, tu sais, demeurer amoureux malgré la situation de proche aidance, par exemple, ou quand on a un enfant qui ne pourra jamais devenir autonome, qui aura plus de difficultés à devenir autonome, ben il y a différentes réflexions aussi à faire. Donc, ma collègue développe des outils pour soutenir ces personnes-là, puis dans le fond, toujours favoriser un bien-être, une qualité de vie.
Et puis donc, vous avez plusieurs projets au centre d'expertise en gérontologie. De votre côté, sur quoi vous vous penchez dans les prochains mois?
Mais moi, de mon côté, en fonction là, de mes champs d'expertise, bien, moi, je m'intéresse beaucoup à l'inclusion numérique des personnes aînées. Donc, par des projets, là, comme je le mentionnais, pour soutenir le développement de la compétence numérique, mais également sensibiliser les entreprises et les organisations propriétaires des services de vraiment penser les outils ou les solutions avec les personnes aînées, puis s'assurer qu'elles répondent à leurs besoins et qu'elles soient adaptées à leur réalité. J'ai également des projets là, sur les liens intergénérationnels, donc entre autres au niveau là, de la cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées. C'est un projet qui est soutenu par le secrétariat à la jeunesse du Québec. Sinon, là, il y a un colloque aussi à venir là, sur le bénévolat dans le cadre du colloque de l'ACFAS au mois de mai à l'UQTR. Donc oui. Ça, c'est différentes choses sur lesquelles je travaille.
Pour les gens qui veulent plus d'informations, on peut voir votre site Internet là, du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Hein. Les projets sont indiqués, puis on peut voir aussi les anciens projets là, qui ont donné des résultats quand même qui sont très intéressants là, si on s'intéresse à ces enjeux-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir. Revient avec la revue de presse. Le Québec met en place une alerte silver qui est une alerte pour la protection des aînés. C'est un nouveau mécanisme d'alerte médiatique destiné à mobiliser rapidement la population et les forces policières pour retrouver des personnes aînées portées disparues. C'est une mesure qui est présentée comme étant en fait une alerte Amber, hein, mais pour les personnes vieillissantes. L'alerte Amber qui est utilisée, on le sait, hein, pour des enfants disparus. Mais là, on parle de personnes vulnérables, de personnes âgées vulnérables. Donc, Silver pour système d'information pour localiser les personnes vulnérables égarées et recherchées. Donc, Silver. Silver, qui veut également dire gris ou argent en anglais, ça vise à combler un vide dans les outils de recherche des disparitions impliquant des personnes de 65 ans et plus et souffrant de troubles neurocognitifs majeurs ou représentant des symptômes confirmés par leurs proches. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne âgée, mais des personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables étant donné des problèmes cognitifs. Pour déclencher une alerte, il doit y avoir plusieurs critères. Donc, on doit exister un risque imminent pour la vie ou la sécurité de la personne. La diffusion d'alerte doit être jugée pertinente pour les recherches et on doit avoir suffisamment de renseignements pour avoir une diffusion publique. Et la ministre de la Santé et responsable des aînés, Sonia Bélanger, a souligné l'importance de ce déploiement pour renforcer la dignité et la sécurité des personnes aînées particulièrement ceux qui sont en situation de haute vulnérabilité, parce que bien sûr, ces personnes-là donc sont en danger, souvent en danger imminent là, lorsqu'elles sont perdues, étant donné leur incapacité cognitive majeure qui pourrait y porter à ne pas être autonome et à ne pas savoir vers qui se tourner dans le cas où elles seraient perdues. Donc, c'est un peu à la manière des alertes Amber, je le disais, donc des alertes qui vont sonner sur le téléphone lorsqu'une personne âgée qui présente des problèmes cognitifs va être portée disparue. On a fait donc un projet pilote qui a été déployé dans 6 régions du Québec et qui maintenant sera généralisé à toute la population. Selon les cibles de la coalition Avenir Québec, environ 7% des personnes de 65 ans et plus au Québec sont touchées par des troubles cognitifs. Donc, ce ne sera pas une alerte qui devrait être extrêmement utilisée. Par contre, il y a quelques fois où elle sera utilisée, nous l'espérons, pourra amener des gens à être retrouvés facilement et éviter évidemment des décès ou des problèmes graves de santé qui ont été occasionnés parce que les gens ont été perdus pendant plusieurs heures. Évidemment, il y a toute une question aussi de médication et de sécurité physique pour ces gens-là. Donc, c'est une bonne initiative là, qui a été mise en place. Dans le même ordre d'idées, le village de Sainte-Ville a récemment annoncé la formation d'un comité de pilotage dans le cadre de l'initiative Municipalité Amis des aînés, un comité qui a pour mission de développer un plan d'action visant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées de la communauté. Les membres du comité vont se former lors d'une séance du conseil municipal. Donc, on va recommander donc une politique comme MADA. Donc, pour avoir un comité pour les aînés qui va être évidemment mené par des personnes aînées. Pour qu'il y ait un comité permanent de personnes aînées qui puissent participer aux enjeux de la ville et donner des préoccupations là, des personnes aînées et également apporter des solutions à différents enjeux qui touchent les personnes aînées. Donc, c'est un type de comité qui me semble être très pertinent dans différentes villes au Québec qu'on devrait mettre en place, étant donné que les personnes aînées, malheureusement, sont peu écoutées et qu'on prend des décisions qui les concerne souvent sans leur demander leur avis. Et ça reste une bonne façon pour les personnes aînées de s'impliquer dans leur communauté et de rester socialement actives dans leur communauté. Donc, c'est une bonne chose et je pense que tout le monde gagne. Finalement, un manuel d'autotraitement pour réduire l'anxiété chez les personnes âgées, c'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Anxiety Disorder. Donc, c'est une revue, évidemment, scientifique. Et on parle des bienfaits du traitement qui est encore présent après un an chez les personnes participantes. Et que ça a été testé, donc le manuel d'autotraitement a été testé auprès de personnes de 60 ans et plus et montre une efficacité. Donc, à long terme, en raison du vieillissement de la population, il y aurait de plus en plus de personnes âgées avec des problèmes d'anxiété. C'est ce que rapporte Philippe Liandreville, professeur à l'université, à l'école de psychologie, de l'Université de Montréal. Il faut donc trouver des façons de réduire l'anxiété des personnes âgées parce que on l'a souvent dit, hein, c'est quelque chose qui est nocif pour la santé physique et pour la santé psychologique des personnes vieillissantes. Donc, un manuel d'autotraitement guidé pour les personnes de 60 ans et plus pour les aider à gérer leur anxiété. Ça a été testé auprès de 150 personnes en collaboration, donc entre l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. On parle de 8 modules pour devenir son propre thérapeute qui est basé sur la thérapie cognitive comportementale qui met l'accent sur les pensées et les comportements qui maintiennent l'anxiété. C'est réparti sur 15 semaines et ça prévoit entre 30 et 60 minutes d'activité par jour pour le traitement. Ce qu'on a vu, en fait, je l'ai dit au début de la nouvelle, c'est que les personnes âgées qui avaient utilisé un manuel d'autotraitement avaient encore des bienfaits un an après l'utilisation. Et bien sûr, c'est quelque chose qui demande quand même peu d'intervention de la part de personnes, d'intervenants professionnels. Donc, ça permet aux personnes âgées de se traiter elles-mêmes dans le confort de leur maison sans être médicalisées et en évitant des surcharges aux professionnels de la santé. Évidemment, bien sûr, ça n'enlève absolument pas l'idée selon laquelle si vous avez des problèmes au niveau de l'anxiété ou des problèmes de santé psychologique, d'aller consulter là, cela vous trotte en tête. Par contre, des manuels d'autotraitement comme celui proposé par l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal peuvent être des guides, hein, des outils supplémentaires pour les personnes vieillissantes, des personnes âgées qui en ont le besoin. Et il faut vraiment voir ça effectivement comme étant un outil supplémentaire pour permettre aux personnes qui souhaitent d'avoir quelque chose vers quoi se tourner pour faire de l'autotraitement à la maison lorsqu'il y a désir. Et ben ça nous permet de mieux comprendre l'anxiété chez les personnes âgées et de mieux développer, de mieux comprendre ce qui fonctionne pour ces personnes-là. Donc, c'est quand même une bonne chose, malgré le fait, je le répète, que ça ne substitue pas... à des traitements médicaux là, pour des personnes qui en auraient besoin. Finalement, il y a une étude aussi là, qui est sortie, qui sont des exercices simples pour aider les personnes âgées à vivre plus longtemps. On pense souvent là, qu'il faut avoir des exercices de haut calibre, qu'il faut marcher beaucoup, qu'il faut faire énormément d'exercices pour être capable... Ça, c'est ta faute. Okay. Attends. Il faut pas que je reparte. OK, je vais regarder dans le chat. Okay. Oui, on pense souvent donc qu'il faut faire beaucoup d'exercices pour se maintenir en santé. En fait, il y a le docteur David Coulter qui travaille au Providence St. John's Health Center aux États-Unis, a parié qu'un mode de vie sédentaire est associé à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d'obésité, ainsi que de certains cancers de décès prématurés. Donc, les personnes âgées qui font de l'exercice peuvent améliorer, évidemment, leurs conditions physiques. Il faut maintenir une activité physique en vieillissant. C'est un des moyens les plus efficaces de préserver sa santé physique et sa santé cérébrale. Donc, selon l'étude qui a été faite donc aux États-Unis, il faut faire de l'exercice pour préserver, évidemment, sa capacité à prendre soin de soi, préserver son autonomie. On ne parle pas, évidemment, d'entraînement intensif ou de la course. On peut parler d'activités qui font bouger le corps et procurent une sensation de bien-être, comme des promenades au parc, du tai chi, de la danse, du jardinage et du ménage. Donc, il faut passer à de petites activités, mais les faire de façon régulière. C'est ce qui aurait le plus d'impact pour les personnes qui sont âgées pour aider à maintenir les muscles et le système d'équilibre du cerveau et renforcer les connexions entre le cerveau et le corps. Toute activité sollicitant finalement l'équilibre, la coordination, l'attention est bénéfique pour le cerveau. Donc, on peut parier de danser en cuisinant, on peut parier de cuisiner en se promenant dans la cuisine, on peut parier également de jouer avec ses petits-enfants. Donc, des petits mouvements au quotidien qui améliorent la circulation sanguine vers le cerveau et le bon fonctionnement des voies nerveuses. Ces petites activités-là sont quand même très importantes. Et encore une fois, je le répète, on ne parle pas donc d'entraînement intensif, mais de conserver des petites activités au domicile, des activités qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et ça maintient l'autonomie pour les personnes âgées et ça permet de vivre plus longtemps et surtout d'avoir une qualité de vie qui est plus intéressante pour les personnes âgées. Donc, il faut maintenir de petites activités, mais maintenir de petites activités dans le temps, le faire souvent et le faire à répétition, toujours en écoutant évidemment ce que le corps nous dit. Donc, c'est tout pour la revue de presse. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde.